Voilà, frères et sœurs, que nous sommes donc invités à contempler cette suite du mystère de la Nativité à travers l'adoration des mages. Tous ces mystères de l'enfance de Jésus sont très beaux, un peu romantiques aussi quelquefois, sous certains aspects. Alors il y a eu la joie de Noël, ce mystère aussi dans la nuit de Noël. Il y a eu aussi la joie des bergers venus à la crèche. Et puis alors il y a ces mages venus de si loin, venus d'Orient, dont on ne comprend pas trop comment ils ont pu atterrir comme ça à Bethléem pour adorer ce petit enfant. Rappelez-vous, hein, les anges disaient aux bergers « Un signe vous est donné, un petit enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et voilà que ces mages venus d'Orient trouvent ce signe et ils vont se prosterner. Et donc ils sont touchés par ce grand mystère. On pourrait dire, c'est un petit peu comme un conte de fées qui continue. Et on peut même être un peu sceptique en fait, en se disant bon que... le mystère de la nativité soit accueilli plus ou moins bien par ceux qui vivent en Palestine, par le peuple de Dieu, par ceux qui en ont reçu la révélation. D'accord, mais que des savants venus d'assez loin quand même, ignorant ce qu'ils sont venus chercher même, parce qu'ils viennent à Jérusalem, ils disent « nous cherchons un roi ». Est-ce que c'est vraiment exact? Est-ce que c'est vraiment historique? On est un peu sceptique, hein, vraiment. Et donc la question c'est, pourquoi sont-ils là, à la crèche, ces mages? Pourquoi est-ce si important pour saint Matthieu, qui est le seul évangéliste à nous rappeler cet événement, pourquoi est-ce si important pour saint Matthieu la présence de ces trois étrangers, ces trois savants païens, venus de si loin, leur présence à la crèche? Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce que c'est si important? Sinon parce que saint Matthieu y voit déjà, un peu comme l'annonçait le prophète Isaïe, comme le désirait quand même le peuple juif, saint Matthieu y voit la présence de toutes les nations, et donc des nations païennes, à la crèche. Les païens, eux aussi, sont là pour accueillir le mystère du Sauveur. Enfin, quand même, il faut replacer les choses. Ces mages venus d'Orient, ils représentent, pour faire très bref, très schématique, ils représentent quoi? Un peu le peuple perse. Mais la Perse, c'était une des dernières puissances qui a soumis Israël, qui a été responsable de l'exil à Babylone, qui a rasé Jérusalem. Et en fait, ces peuples païens dont on parle, c'est l'Égypte, c'est la Syrie, c'est la Perse, c'est l'Empire macédonien, c'est l'Empire romain. Mais tout cela, ils ont été oppresseurs pour Israël. Ils ont été cause de souffrance, d'exil, de destruction, voire de persécution. Et voilà qu'ils sont là à la crèche. Et voilà qu'ils sont eux aussi accueillis devant ce mystère du salut. Dieu est venu les sauver. Et Israël devrait se réjouir, en fait. C'est ça la grande victoire de Dieu. Même nos ennemis, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont tout d'un coup convoqués pour découvrir l'amour de Dieu. Alors on comprend ça, on comprend qu'en cette fête de l'Épiphanie, il y a bien sûr cette dimension de la révélation, mais cette révélation, elle est portée aux confins du monde. Dieu se révèle à toutes les nations à travers la figure de ces trois sages d'Orient. Et puis on pourrait dire aussi, ces mages, je ne sais pas trop qui ils sont pas rois. Même si la tradition en fait des rois, et qu'on est content de tirer les rois aujourd'hui, ils ne sont probablement pas rois, mais ils sont savants, probablement plus astrologues que politiques. Et donc, ils viennent nourris de quoi ? Ils viennent nourris de leur recherche, et leur recherche, elle est, pour l'époque en tout cas, scientifique. Ils ont vu une étoile, et il y a un mystère derrière cette étoile, et il y a quelque chose qui annonce un événement. Et donc c'est cette étoile qui les convoque d'une certaine manière, et donc c'est leur science qui, au lieu de les enfermer dans leur certitude personnelle, dans leur orgueil, on devrait dire, les ouvre à quelque chose qu'il faut découvrir. Et ce qu'il faut découvrir, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là, Dieu qui vient nous sauver. Et donc on pourrait dire, c'est pas seulement le paganisme, dans le sens de l'ignorance de Dieu, c'est aussi toute l'intelligence humaine avec ses forces, limitées certes, mais enfin ses forces quand même, qui cherche plus grand que ce qu'elle peut se donner comme réponse. L'intelligence humaine qui s'ouvre à quelque chose qui la dépasse. Le mystère de Dieu, et non pas seulement le mystère du Dieu créateur, ils auraient pu se satisfaire d'une étoile en disant c'est Dieu qui a créé les étoiles, mais le mystère du Dieu sauveur, du Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité et qui vient encore une fois pour nous libérer, pour nous ramener à lui. On comprend ça, ils sont l'image de quelque chose de très grand, ces mages. Et en face, il y a Hérode. Hérode, c'est celui qui est là, roi d'Israël à l'époque, un peu usurpateur, mais enfin pas qu'un peu d'ailleurs. En tout cas, le représentant du pouvoir. Et quand on l'interroge, quand les mages semblent lui dire « L'étoile nous a conduits jusqu'à là », donc ça veut dire notre science, notre connaissance humaine nous a conduits jusque-là. Et maintenant, où devons-nous aller ? Il faut bien consulter les Écritures. Et ce peuple de Dieu, il est dépositaire de la révélation. Dépositaire de la compréhension des Écritures. Il va falloir dire. Voilà que la réponse maintenant est donnée par les Saintes Écritures. Alors on la donne, hein. On cite Michée, mais oui, c'est à Bethléem que doit naître le Messie, on semble savoir même. En fait, de savoir, on est quand même bien tranquille dans Jérusalem, et surtout Hérode, il est bien accroché à son pouvoir, et cette connaissance qu'il a des Écritures, qu'on lui donne des Écritures, qu'il faut transmettre aux mages, il l'instrumentalise pour conserver son pouvoir. On sait que derrière ça, c'est le massacre des saints innocents. C'est-à-dire que l'ambition d'Hérode, c'est de faire mourir celui qui, semble-t-il, prétend à son trône. Voilà, le grand mystère de l'Épiphanie, c'est ça quand même. C'est que ceux qui sont étrangers, si loin, si ignorants de Dieu, se reposant sur leur savoir humain, ceux-là arrivent à la crèche et adorent. Et celui qui devrait être si proche, qui a reçu, qui représente le peuple qui a reçu la révélation, celui-là ignore. Et en fait, il faut que nous nous laissions interroger par cela. Qui vient à la crèche, qui adore, qui reçoit ce grand mystère du Dieu fait homme qui l'accueille pour être sauvé, qui se drape dans son refus, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Est-ce qu'aujourd'hui, cette opposition, cette distance qu'il y a entre ceux qui devraient être là et qui ne sont pas là, ceux qui, selon toute évidence, ne devraient pas être là et qui finalement sont là, Est-ce qu'elle ne nous dit pas aussi quelque chose pour aujourd'hui? Est-ce que dans un monde très scientifique, où la science semble quelquefois même être une réponse aux ambitions, enfin à la recherche de l'homme, et du coup on met Dieu de côté parce qu'on n'en a plus besoin, un monde très technologique, mais juste humain finalement. Est-ce que ce monde-là, est-ce que nous entendons, est-ce que nous savons entendre la recherche des hommes qui, au-delà de leur recherche purement scientifique, technique, intellectuelle peut-être aussi, aspirent à celui qui dépasse tout ça, Dieu? Et est-ce que nous, qui sommes, on pourrait dire comme le peuple juif, désormais dépositaires du grand mystère, nous savons, nous, que le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous, qu'il nous a sauvés, nous le célébrons, nous sommes là pour ça, non? Est-ce que nous, nous sommes en mesure d'entendre cette recherche de ceux qui semblent être loin? Est-ce que on pourrait dire, nous savons être pour eux le signe qui les conduit au Christ? Est-ce que nous sommes capables de les ouvrir à l'Écriture, à la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de transmettre, en fait, de témoigner? Est-ce que nous sommes pour eux une étoile aussi qui les conduira au Christ? Est-ce que nous savons être sur leur chemin cette étoile? C'est inquiétant questionnement, ça. Parce que Dieu semble déjouer un peu les pronostics. Et il me semble que l'épiphanie ne devient pas simplement la fête de toutes les nations convoquées au mystère du salut, mais devient une très belle interpellation pour chacun d'entre nous d'être sur le chemin de ceux qui cherchent Dieu, de nos contemporains qui cherchent Dieu avec le peu de moyens peut-être qu'ils ont ou avec les difficultés, etc., d'être sur leur chemin, ceux qui les conduiront au Christ, au Sauveur. C'est l'interrogation de tous les temps. Depuis que le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous, qu'il est mort et ressuscité, qui conduira tous les hommes? À commencer par notre voisin, hein. C'est là que ça commence, hein. Qui conduira au Sauveur tous les hommes qui cherchent? Voilà, demandons au Seigneur de nous aider à fêter l'épiphanie de cette manière-là. Dépassons juste comme un peu Noël, le côté un peu joli, romantique, la galette des rois et tout ça, c'est très beau. Mais en fait, il y a un appel à l'évangélisation qui est très fort. Et qui est non pas juste se réjouir de trois mages présents il y a tant d'années devant l'enfant Dieu, mais qui est le mystère de l'évangélisation, la nécessité de l'évangélisation aujourd'hui. Encore une fois, qui conduira au Sauveur nos contemporains qui en sont si loin, semble-t-il. Amen.